Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête. J'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases? Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir? Est-il possible de le définir? Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Dans cet épisode, je parle avec Hugo Ferrari, personnage haut en couleur, cycliste repenti, ultra-trailer, speaker et organisateur. Ensemble, nous revenons sur ses 5 UTMB pour tenter de percer ses secrets. Et si, comme beaucoup d'athlètes, Hugo prétend ne pas faire de préparation mentale, on retrouve comme toujours les principes fondamentaux. Et sans plus attendre, Hugo Ferrari.
Bon Hugo,
j'ai regardé un petit peu ton site, la Taverne du Duc, j'en ai apprécié l'univers fantastique qui s'en dégage, quelque part entre Kaamelott et Kung Fu Panda. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cette autoproclamation au Duc de Savoie? Alors, ne commence pas à rigoler parce que, comme je te le disais un instant, j'ai fait un autre podcast précédemment où j'ai raconté beaucoup de conneries et je m'étais dit sur celui-là, essaye d'être sérieux. Donc si au bout de 45 secondes déjà, on commence à rigoler, tu te doutes que l'entreprise va être périlleuse. Donc pourquoi le Duc de Savoie?
Ah, t'as peut-être mal choisi la personne, si tu voulais pas trop rigoler. Ça vient de l'année 2019, où j'étais allé faire une petite course, course à saucisson, hein, c'est vrai, on peut le dire, on devait être 150 au départ. Un 80 bornes là, dans le Beaujolais, le Ultra Beaujolais Village Trail. Très sympa, même s'ils ont revu un peu les distances depuis. Et j'avais gagné parce que j'étais très en forme. C'était pas voulu, mais bon, bah voilà, des fois. Et puis bon, on va pas se mentir, il y avait pas un plateau foufou, même s'il y avait quand même Yann Nourry. Bon, c'était le local qui court bien et tout. Il y avait Frédéric Desplanches d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Mais ouais, j'avais gagné, et puis c'était marrant. Enfin, à l'époque, François Dany, il habitait là-bas. Enfin, dans le Beaujolais, pas vraiment là-bas, mais dans le Beaujolais. Et je m'étais dit, tiens, c'est rigolo, François Dany, enfin, évidemment, on n'avait pas fait cette course, mais j'avais gagné un peu sur ses terres, tu vois. Je me suis dit, bah tiens, je suis allé un peu en campagne chez lui. Moi, j'aime bien l'univers un peu moyenâgeux ou médiéval, tu vois, tu parlais de Kaamelott. Et j'ai dit, bah tiens, le Duc de Savoie, parce que Chambéry est la cité des Ducs de Savoie, la TDS, c'est la trace des Ducs de Savoie, ben j'ai dit, bah tiens, le Duc de Savoie est venu sur les terres du roi François Dene lui prendre un bout de terrain, quoi. Et c'est parti de ça, et c'est resté. Tout simple.
C'est aussi simple que ça. C'est une bête histoire de territoire et de je viens courir chez quelqu'un, je gagne et voilà. C'est aussi simple que
ça. Ouais, puis rapidement, si tu veux, ça m'a fait marrer de porter le drapeau de Savoie en vidéo, de m'acheter un chapeau sur le magasin de décoration qu'on a à côté là. Et puis en fait, je me suis dit bah tiens. Finalement, quand je fais un podcast ou une vidéo YouTube, il y a toujours une part non négligeable de gens en fait qui saisissent pas l'humour, même s'il est quand même tellement grossier que ça m'étonne à chaque fois qu'il y en ait qui le saisissent pas. Mais visiblement, ça arrive encore. Et du coup, je me suis dit, si je me déguise, ça va être encore plus frappant, quoi. Si je dis c'est le Duc de Savoie, les gens vont tout de suite instantanément comprendre que c'est une blague, c'est pour rigoler. Et effectivement, ça marche bien. Mais on en a quand même qui le prennent au premier degré, hein, parfois.
Alors, tu prétends toi-même être un piètre cycliste.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Oui, oui. Bah, par
mais surtout,
au meilleur...
tu as eu la révélation de l'ultra en 2016 en devenant. J'ai cherché un petit peu. Hein, quand même, ça ne se voit pas comme ça, mais j'ai un petit peu fouillé.
Attention, alors.
Et de tes propres mots, en devenant convaincu et surtout convaincant. Ça signifie quoi ? Que à ce moment-là, tu es devenu convaincu et convaincant. Alors, est-ce que tu te souviens de cette phrase au moins ? Ou est-ce que tu veux que je te rafraîchisse la mémoire ?
Où est-ce que j'ai dit ça ?
Alors, je suis bien embêté parce que là, je n'en ai plus la trace. Mais globalement, est-ce que ton passage du vélo au trail s'est passé comme dans du beurre ? Ou au contraire, est-ce que ce fut un chemin périlleux ?
Ah, ouais, non. C'était assez dur quand même. Hein, parce qu'en vélo, oui, non, j'avais pas le niveau d'être professionnel.
Mais t'avais quand même un bon petit niveau national. Donc, effectivement, entre national et pro, c'est pas le même vélo. Enfin, c'est
après,
pas la même
attention, hein, pour
quand
ceux
même.
Qui font du vélo, moi, en élite nationale, ce qui est les plus hautes courses au niveau amateur.
Ouais.
Arriver avec le peloton à l'arrivée, c'était un exploit, en fait. C'était déjà. C'était beau. Donc, j'ai quand même beaucoup de difficultés par rapport à beaucoup d'autres gens. Mais effectivement, je grimpais bien, tu vois, physiquement, j'étais assez fort, je grimpais bien. Par contre, j'avais très peur, en fait, dans le peloton, je descendais un peu mal. Pour vous expliquer, c'est un peu comme Pierre-Roger Latour qui avait ce souci-là, bah, encore plus cette année, ça s'est vu quand il était en échappée. Mais donc, j'ai arrêté le vélo parce que, en fait, au bout d'un moment, bah, t'as fait trop de chutes et t'es un peu dégoûté. Puis tu vois que tu n'y arrives pas. Et du coup, je me suis mis à courir, mais pas tout de suite, en fait. D'abord, je me suis mis à boire, parce que j'étais en école d'ingé, donc on picole beaucoup. Et au bout de 2 mois à beaucoup boire, je me suis dit, non, c'est plus possible. Parce que là, des fois, je me réveillais. Machinalement, j'allais en cours, mais je savais pas trop ce qui se passait, quel jour on était, quelle matière on avait. Ça m'échappait un petit peu jusqu'à midi. Et après, les idées se remettaient en place. Et du coup, je suis allé courir avec un copain de soirée, d'ailleurs. Un sacré pilier de bar, lui aussi. Et bah, c'était sympa. Et un mois et demi après, on s'est inscrit à une course de 20 km, je crois. Et puis après, bah, le virus a pris, finalement. Tu vois, j'ai voulu faire l'ultra-tour du Beaufortin, qui est chez mes grands-parents, là, en juillet. Ce qui, après quelques mois de pratique, était peut-être un peu idiot. D'autant plus qu'avant j'ai voulu faire la maxi race et là c'était beaucoup trop dur donc je m'étais fait un peu mal partout donc j'avais pas pu préparer non plus le Beaufortin, j'avais pas couru pendant 4 semaines ce qui est un peu embêtant avant de prendre le départ. Évidemment ça s'est très très mal passé mais j'ai trouvé ça magnifique, très beau et le virus était là du coup. Par contre il m'a fallu quasiment 2 ans tu vois avant de refaire un ultra qui était la TDS. Parce que après je me suis dit bon attends c'est quand même pas possible d'avoir mal partout tout le temps, les autres n'ont pas mal comme ça donc c'est qu'il y a un problème. Donc Mathieu Bonan du team Optisport m'avait un petit peu repéré parce que malgré toutes ces conneries j'étais quand même plutôt devant et en 2015 il m'a mis dans son team Optisport là. C'était sympa, familial, gentillet, beaucoup de plaisir et puis lui il faisait les plans d'entraînement, c'était un kiné aussi. Ça s'est bien passé, il m'a bien remis le pied à l'étrier, tu vois, de 25 à 65 km, on va dire. Mmh. Et puis en fin d'année, on s'est séparés parce que moi, en fait, je voulais vraiment partir sur de l'ultra. Lui, il n'était pas ultra chaud. Il maîtrisait moins bien aussi. Il était très très bon pour préparer des gens sur marathon. Je pense là, il avait vraiment, vraiment l'habitude avec Bertrand Brochot, avec d'autres athlètes. Par contre, l'ultra, peut-être, lui. Il y touchait un peu moins, hein. C'est vrai que le trail c'est quand même vaste. Et du coup, ouais, je suis parti en 2016 pour faire avec Patrick Bringer. Et ça s'est bien passé tout de suite. Ouais. Et en 2016, ouais, 4e à la TDS. Et puis là, c'était réglé, quoi. C'était une course plus ou moins internationale. C'est Pau Capel qui avait gagné. Et puis ouais, quand t'arrives dans les rues de Chamonix, t'es 4e, t'es premier français, c'est 21h. Bon, je te fais pas un dessin, quoi. C'est plutôt sympa. Tu te dis, c'est un beau sport, quoi.
Qu'est-ce qui t'attirait dans l'ultra plutôt que Pour le dire autrement, pourquoi passer vraiment sur de l'ultra au lieu de rester sur un mélange plus rigolo, trail court, picole la semaine?
Ah, oh, ça m'a jamais trop amusé hein,
de picoler.
De picoler ou enfin à petite dose en tout cas. Moi, il fallait que ça soit.
Il fallait le faire à un moment donné en tout cas.
Il fallait que ça soit fantasque. Il fallait que ça parle. Il fallait que ça pète. Et du coup, j'avais plusieurs jours à me remettre de tout ça. Et il y avait des jours de préparation avant d'aller à une soirée digne de ce nom. Donc c'était vraiment une organisation qui t'empêchait de faire du sport hein, le reste du temps. Mmh. Non, le trail court en fait ne m'a jamais vraiment intéressé. J'en fais un peu bien sûr pour la préparation, j'y prends quand même du plaisir, mais ne m'a jamais intéressé dans le sens où tu vois en vélo c'est des efforts qui durent à peu près 3 heures hein, plus ou moins, et j'avais plus envie de faire cet effort. C'est un effort très difficile hein. 3 heures à son meilleur niveau, c'est très dur parce que tu balayes un peu toutes les plages d'intensité. T'es obligé de commencer à gérer un peu ton alimentation, mais c'est très dur parce que t'es à haute intensité, donc c'est vraiment un effort extrêmement difficile. Hein. Voilà, le maratrail, c'est très très dur. Et j'avais plus envie de ça. Par contre, la joie de découvrir un parcours extrêmement long, une traversée d'île, le tour du Mont Blanc. Je l'ai jamais fait, mais le parcours du 100 miles sud de France est quand même assez sexy lui aussi. Bah toutes ces choses-là, l'échappée belle, tu vois, tu traverses le massif de Belledonne, l'UT4M, tu fais les quatre massifs autour de Grenoble, toi, c'est des trucs. Quand tu le lis sur le papier, ça ressemble un peu à une aventure. Alors évidemment, il y a des gens qui ont fait des trucs 20 fois plus barrés, mais le compromis, je réalise une aventure, mais elle dure à peu près 24 heures. Et eh ben, j'ai trouvé ça pas mal.
Alors, d'après mes recherches, toujours, tu as 3 UTMB au compteur avec des places de 18, 22 et 26e. Ça nous fait un temps de 23h10, 23h38 et 24h34 pour ta première tentative. Comment on gagne 1h24 sur un UTMB, pardon? Sachant, pour pondérer tout cela, que les conditions, le parcours peut être légèrement différent d'une année à l'autre, mais comment, sur 3 tentatives, on gagne environ 1h20, 1h30 ? Où est ta marge de progression ?
Alors, tu as oublié 2018 et 2019, avant le Covid.
Oh !
Et je les ai fait aussi. En 25h30 à chaque fois, mais en 2018, il faisait très mauvais.
Ouais.
Exactement comme en 2017, quand c'était la course du siècle, tu sais, avec François et Kylian. Et 2018, il faisait très mauvais et l'ensemble des favoris avaient abandonné. Le deuxième, c'était Robert Aynal. Le troisième, c'était Jordi Gamito. Et moi, je l'avais fait pour la première fois. 2019, c'était le vrai parcours. Donc, je mets le même temps, mais sur le vrai parcours. Donc, c'est comme si j'avais amélioré mon temps. Et effectivement, comme tu le dis, 2021, 2022, 2023... j'améliore quasiment de 1 heure entre 2021 et 2022 et j'améliore d'un peu moins d'une demi-heure entre 2022 et 2023 sur des parcours, bah, comme tu le dis très justement, qui sont un tout petit peu différents, mais qui si on les analyse correctement se ressemblent finalement. Tu gagnes un endroit, tu perds un autre, parce qu'en 2022 on nous a parlé de records, de ceci, de cela. Tout le monde a oublié que avant les Contamines, on n'a pas fait une bosse de 120 mètres de dénivelé, qui est un contournement de 7-8 minutes pour quelqu'un comme Jim Wamsley et d'une dizaine pour moi. Donc voilà, tout le monde disait ah, 2023 est plus rapide. Non. Donc ouais, j'ai amélioré ça. Alors, bah tu n'es pas sans savoir que sur l'ultra, il y a énormément de paramètres. Et quand on améliore un, t'en améliore un. Bah, tu te dis, tiens, je suis allé au bout des choses. Et puis, en fait, il y a un mec qui te parle d'un truc. Et tu te rends compte que ta nutrition n'était pas bonne et que tu peux améliorer ça aussi. Donc, après, tu pars là-dessus sur encore 2 nouvelles années, etc., etc. Et bah, peut-être, bah, sans doute que c'est pas infini, hein, la progression. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, pour te justifier, c'est 1h24. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2021, je ne maîtrisais pas le pacing. C'est-à-dire partir doucement, accélérer progressivement, hein, pas d'un coup, attention, etc. Et ça, je l'ai mis en place en 2022 et tout de suite, il y a eu un énorme gain. Mmh. Par contre, en 2022, Je suis arrivé avec une préparation physique qui était bien. Hein. Évidemment, j'allais être finisher, il n'y avait pas de souci, mais elle n'était pas exceptionnelle. Et en 2023, on l'a amélioré un petit peu pour différentes raisons. Et du coup, j'étais au départ en meilleure forme. Donc, j'ai encore gagné un peu de temps. Et là, pour 2024, l'axe de progression va être sur le simple fait d'être meilleur physiquement. Parce que la nutrition 2021, 2022, 2023 a été quasiment parfaite. Enfin, en tout cas, c'est pas là que je vais gagner énormément de choses. Évidemment, il y a peut-être deux purées que j'ai pas mangées au bon moment. Voilà, on peut pinailler là-dessus, mais voilà, tu vas gagner quoi, 5 minutes à la fin. Hein. Ça va être sur simplement le fait de devenir meilleur physiquement, parce que tu vois, je termine 22e et les 21 mecs devant moi, alors pas casquette verte parce que lui, il est simplement très endurant et très motivé au départ. Mais on va dire les 20 autres personnes devant moi sont des gens qui athlétiquement me sont supérieurs. Et du coup, il va falloir les rattraper un petit peu, il va falloir combler un peu l'écart avec eux. Ça passe par quoi? Ça passe par un hiver différent où on passe pas son temps sur les skis de fond, à faire 3 heures en endurance. Mais on vient travailler les points faibles, parce que plus le point faible est gros, plus il est facile de l'améliorer. Alors que bon, le point fort, tu vas l'entretenir, bien sûr, parce que sinon il va avoir tendance à disparaître un peu, mais tu vas pas gagner énorme dessus. Par contre, moi, on s'est aperçu que en pliométrie, je suis extrêmement mauvais, donc là, je vais en bouffer pendant 10 semaines sur un vrai cycle. Finalement, en descente, j'étais pas si fort que ça par rapport aux 20 personnes devant moi, donc c'est parti pour de la musculation et du dénivelé pendant l'hiver. Et point de vue vitesse, ça c'était assez flagrant. Effectivement, Jim, c'est 1h03 au semi. Tu prends le top 10, il y en a pas un qui court en plus de 32 minutes au 10 000. Donc là, moi je suis plutôt en 33,50 ou 34. Là, tu te dis, il y a peut-être 1 minute ou 30 secondes à gagner. C'est déjà peut-être bien. Mmh. Et je bosse ça aussi. Donc 3 axes, vitesse, endurance musculaire, ou plutôt même force, et pliométrie. Pour l'hiver.
Donc là, si je note bien, parce qu'on est quand même là pour parler un petit peu du mental, ça veut dire que tu places ta marge de progression uniquement dans les jambes et absolument pas dans ce qui peut se passer là-haut. Ça veut dire que t'es au top.
Si...
Ça veut dire t'as un mental d'acier, en fait.
Ouais.
Ouais. Bon, je te souhaite une bonne journée, alors. Merci. C'était cool.
Je me moque poliment. J'ai fait de la préparation mentale en 2021, tu vois, j'en ai fait pendant une dizaine de semaines, donc une séance par semaine à peu près. Ah non, plus que ça, parce que je faisais une séance, et après, la semaine d'après, j'appliquais les exercices tout seul, et après, on refaisait une séance, etc. C'était assez bien, assez sympa, mais tu vois, c'était pas un gros axe de développement pour moi, ce qui, par contre, est complètement différent pour d'autres coureurs, qui, eux, par contre, ont plus besoin de ça, donc ça dépend un peu... d'où tu viens, etc. Tu vois, moi, à 15 ans, je faisais des Coupes de France VTT, ce qui fait que déjà à 15 ans, en fait, à un moment donné, j'étais sur une ligne de départ. Puis tu sais, en cadet, il y a 150 personnes. Tout le monde s'en fout de son niveau physique. Tout le monde veut gagner. Le problème, c'est qu'on est 150 VTTistes. Au bout de 200 mètres, le champ, il se resserre. On passe qu'à deux de front. C'est la guerre. Donc là, t'as 200 mètres, faut niquer tout le monde. Et ça, 4 fois dans l'année, quand tu voyages 6 heures en voiture, t'as pas un radis, évidemment, t'as 15 ans, c'est tous tes parents qui payent tout et tout, donc l'investissement est maximal. Et du coup, j'ai arrêté le VTT à 20 ou 21 ans, chaque année, 4 fois dans l'année, il y avait un effort maximal à produire, et du coup, intrinsèquement, tu développes tout un tas de techniques quand t'es compétiteur à un jeune âge pour battre les autres, et c'est des techniques mentales. Et il y avait aussi l'entraîneur qui nous en faisait un petit peu, en fait, la veille. Bon, on faisait juste la visualisation de la boîte noire. Il disait, les gars, fermez les yeux, vous imaginez une boîte. Ceux qui ont eu un 5 sur 20 au lycée cette semaine, hop, vous le mettez dans la boîte, vous fermez la boîte et vous pensez plus qu'au vélo, etc. Parce que c'est le week-end, c'est la Coupe de France. Et du coup, oui, j'en ai moins besoin que quelqu'un qui aurait découvert le sport sur le tard. Et qui aurait peut-être commencé sa compétition avec le trail, qui est un des sports les moins stressants quand même au départ.
Effectivement. Alors.
Tu vois, quand tu pars pour un ultra, le stress sur la ligne, c'est léger. Parce que si tu pars loin derrière les autres, tu peux les rattraper, quoi.
On va en parler un petit peu plus tard. Alors, une veille de course, justement, hein, une veille du TMB, de n'importe quelle course un petit peu que tu auras préparé un petit peu sérieusement, tu es plutôt détaché ou plutôt irritable ?
Bah ça a évolué. Hein,
ou parce quelque que... part entre les deux.
Ouais. Non, maintenant, je suis très, très détaché. J'ai quand même une feuille avec les choses importantes à pas oublier parce que plus tu es détaché, plus tu peux oublier un truc. Et bah non, tu vois là, par exemple, le jeudi, juste avant l'UTMB, le midi, j'ai un ami qui m'a amené un très bon jambon serrano d'Espagne. Alors, j'ai oublié la date d'affinage, je m'en excuse, mais on l'a mangé tous les deux, là, c'était délicieux. On s'est régalé. Bon, évidemment, on n'a pas mangé 25 kilos. Et maintenant, je suis très, très, très détendu, vraiment très zen. Par contre, quand je te dis... À 17h, je suis sur la ligne de départ. Le départ est à 18h. À 17h, je suis sur la ligne de départ. Et il n'y a pas machin m'a appelé, bidule ceci, truc cela. Non, à 17h, je suis sur la ligne de départ, point barre. Mais dans le détachement, dans la zénitude. Par contre, en 2018, pour mon premier UTMB, tu vois, il y avait beaucoup plus de stress. Même en 2019, où je faisais un peu des choses idiotes. Par exemple, je cassais le stress en buvant un café, tu vois, juste avant le départ, avec des amis dans un bar, et en fait, c'était assez mauvais, parce que bah, la caféine, juste au départ, c'est pas très bon, parce que ça augmente encore le stress, au final. Enfin, bref. Et avec le temps, plus le temps passe, plus je suis vraiment très, très zen, même la semaine avant. Mais effectivement, au début, comme tu le dis, il y a, je pense, la découverte qui fait que bah, t'es forcément un peu stressé, quoi.
Alors, est-ce que tu peux être un petit peu plus précis, justement? Qu'est-ce qui te stressait? Qu'est-ce qui te rendait irritable ou tendu, une veille de course? 2018-2019, t'étais tendu. Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu t'en souviens?
Je m'en souviens bien. C'est que sur l'UTMB, c'est pas valable avec toutes les courses, en fait. Sur l'UTMB, tu sais, c'est une très grosse machine. Les rues de Chamonix sont bondées, tu ne peux pas y circuler en voiture. Voilà, donc si t'as oublié quelque chose, c'est compliqué. C'est un peu comme quand tu vas faire inspecter ton matériel obligatoire deux jours avant. Alors maintenant, ils ont arrêté ce truc-là, mais avant, ça te prenait facilement une heure.
Ouais.
Plus si t'avais pas de chance. Et tu savais pertinemment que tu perdais un peu du jus, du temps. Si en plus t'avais pas tout le matos, bah fallait revenir. Tu vois, c'était un peu stressant. Un peu. Les bénévoles étaient très très pointilleux, donc t'avais un peu l'impression de passer devant la Gestapo. Tu vois, t'avais tout. En fait, tous les à côté de la course, la difficulté de te rendre au départ parce qu'il y a du monde dans les rues. Même cette année, bon, je m'en foutais parce que j'ai contourné par une autre rue, etc. Il y a une rue, je pouvais pas passer parce qu'il y avait les gens qui voulaient voir le départ. Je leur dis, mais je vais courir là. Je vais faire le départ là. Vous pouvez pas vous écarter un peu? Non, bah non, parce que la foule est beaucoup trop nombreuse. Donc, à moins d'avoir un porte-voix, ça marche pas. Et tu vois, toute cette logistique, en fait, autour de la course pour arriver serein sur la ligne de départ, bah, était stressante. Parce que tu loges peut-être un peu loin. Parce que au moment où tu veux prendre ta voiture pour partir, bah en fait, il y a un copain qui t'appelle et il veut venir avec toi parce que ceci, cela. Ou alors c'est le mec qui devait t'amener parce que après il repart avec sa voiture parce qu'on peut pas stationner ou je sais pas quoi. Ou tu sais, maintenant il y a les navettes et un coup, alors c'est pas moi qui ai été stressé, c'est ma mère qui me faisait la ravito. En fait, elle est montée dans la navette, il y avait plus de place, donc elle a dû prendre celle d'après. Et elle est arrivée une minute avant moi, si tu veux, sur le ravito. Donc ça l'avait stressé un peu. Toute cette logistique autour d'une très grande course, mais parce que tu participes au plus gros truc, quoi.
Donc toi, tes sources de stress, si je comprends bien, elles sont plus sur la logistique que sur le déroulement de la course elle-même. Pas sur la difficulté, pas sur la place, le résultat, ou le prestige, ou la gloire que tu pourrais en retirer.
Ouais, parce que le déroulement de la course, si tu veux, alors ça c'est aussi de la préparation mentale, hein, mine de rien, même si c'est de la préparation logistique avant tout. Le déroulé de la course, en fait, il est écrit sur un papier. À tel ravitaillement, je mange ça. Sur tel ravitaillement, c'est machin qui me fait l'assistance. Il a récupéré ce qu'il doit me donner la veille. On a fait le briefing ensemble. Il a son papier qui est imprimé. Là, c'est la même personne qui m'a fait le ravito sur les deux dernières années, que je remercie d'ailleurs, Guillaume. Tout est écrit, tout est précis et calculé. Mon ravitaillement, c'était plus ou moins le même, donc j'avais aucun stress par rapport à ça. Et tout avait été, en fait, planifié. Donc, moi, j'ai des petits pense-bêtes sur moi au cas où. Lui, il a sa feuille qui est imprimée. Vu que ça fait 2 ans qu'il le fait, il sait exactement quelle route va être fermée et à quelle heure. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut y aller en vélo, ceci, cela. Donc, tout le stress, en fait, du déroulé de la course est supprimé dans les jours d'avant, puisque tout est planifié. Donc, il n'y a pas d'inconnu. Tu te dis, oh putain, merde, attends, mais cours Mayer. Putain, qui c'est qui m'a ravitaillé? Non, c'est bon, c'est fait.
Donc, tu as différentes checklists avec ce que tu dois faire, ce que tu dois, comment tu dois courir, ce que tu vas manger. Tu notes des temps de passage également ou tu as une idée de ton allure?
Alors ça, justement, je l'ai beaucoup travaillé après 2021 où, en fait, j'étais très en forme. Et du coup, je suis parti, voilà, quoi. J'étais avec Xavier Thévenard pendant 3 heures. J'étais très content. Puis après, j'ai explosé. et moi, tu me posais la question à Saint-Gervais, Hugo, est-ce que ça va? Parce que je suis arrivé avec le groupe de tête. Tu vois, j'arrive dans Saint-Gervais, devant moi, c'est Jim et François. Et ben, je te réponds, bah ouais, ça va, tu vois, je suis pas fatigué, j'ai pas mal aux jambes. Et tu me demandes 3 heures après, je fais, ah non, en fait,
ça va pas.
Ça tire un peu. Et puis, alors 6 heures après, bah ça tire encore plus. Donc en 2022, j'ai dit, bon, c'est quand même dommage, on va faire des temps de passage et on va s'y tenir. Ce qui fait que bah maintenant, j'arrive à Saint-Gervais. Je sais plus combien je suis passé cette année, mais l'an passé, je suis passé 85e. Mais je m'en foutais parce que j'étais sur des temps de passage prévus et je savais très très bien qu'en fait, j'allais doubler énormément de gens dans les 6 prochaines heures puisque eux allaient avoir ce que j'avais vécu l'année d'avant, c'est-à-dire ce petit coup de mou, tandis que moi, j'allais glisser sur une allure plutôt régulière. En 2023, je l'ai affiné un petit peu pour gagner du temps. Puis tu vois, je suis arrivé à gagner à peu près 25 minutes. Et en 2024, en fait, ça va être un peu différent, puisque j'aurai mes temps de passage, mais je vais peut-être monter un peu moins vite à des endroits, notamment la toute première bosse, donc là, je serai peut-être très très loin, enfin un peu plus loin que d'habitude. Mais ça, pareil, tu vois, tu y penses avant, en fait, donc tu n'es pas surpris, parce que certains coureurs, tu vois, il y a des coureurs, ils sont très bons, ils ont une cotation à 900, mais le jour J, bah, il y a 20 personnes comme eux, et ça leur arrive jamais. Donc, tu vois, ils peuvent douter. Ils se disent, putain, je suis 18e. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, 18e? Ils ont jamais été pire que 3e de leur vie. Et là, ils sont 18e, donc ça peut être stressant. Donc là, moi, je me dis, bah voilà, tiens, en haut de la première bosse, je serai 120e. Voilà, on s'inquiète pas. Par contre, je vais accentuer, tu vois, avec mon travail de l'hiver, je vais accentuer le rythme en descente. Et du coup, il est possible que mon temps de passage soit perturbé une fois en bas. C'est pour ça que là, je vais moins m'intéresser au temps de passage, mais plus à la sensation, enfin au cardio en montée et à la sensation en descente, puisqu'il va falloir qu'en descente, il va falloir que je m'engage un peu, tandis qu'en montée, dans les 3 premières heures, je vais devoir freiner un peu. Pas le reste du temps, mais les 3 premières heures, je vais devoir freiner un peu en montée et m'engager plus en descente, ça constamment.
Ouais, c'est ce que je me suis dit.
Donc tu vois,
dit,
là,
en fait,
on est en janvier, c'est déjà réglé, quoi.
C'est que là, tu vas travailler des aspects techniques et physiques pour aller plus vite, mais par contre, comment tu vas ajuster tes temps de passage?
Oui, ce sera un peu dur cette année.
Parce que tes temps sont déjà calés sur ton, entre guillemets, ton niveau précédent. Enfin, ton niveau antérieur et tes expériences précédentes. Et là, maintenant que tu vas partir un petit peu dans les spectatives avec ce travail, sans être bien tout à fait certain de ce que ça peut donner concrètement, comment tu vas ajuster justement? Est-ce que tu vas être trop conservateur? Est-ce que tu vas être un peu trop ambitieux? Est-ce que tu le sais déjà?
Non, ce sera vraiment, tu vois, la différence, elle va se jouer aux zouches, ce sera à peu près pareil. La différence, elle va vraiment se jouer dans la première montée, que je vais freiner un poil plus par rapport à d'habitude. Alors, de manière un peu empirique, je me dis que je vais perdre 2 minutes dans l'histoire, donc je vais ajouter 2 minutes au point de passage, donc qui devrait être dans les 1h20 et quelques. Du coup, après, vu que je sais que je vais descendre plus vite, en fait, le temps de passage de Saint-Gervais va être plus ou moins conservé, tu vois, parce que ça va s'annuler, là, les deux. Donc, je vais travailler comme ça, itération par itération, pour essayer de faire mieux. Et après, pour te dire la vérité, jusqu'au Chapieux, tu es dans ce truc de « Ok, à des moments, il faut que je me freine. » Typiquement, la montée au col du bonhomme, tu vois, je regarde un peu le chrono, donc t'as le ravito de la balme au milieu, et tu vois, je regarde un peu le chrono, je me dis « Ouais, ok, là, je suis un peu en avance. » À la balme, ça fait un premier point, donc après, tu affines, tu ralentis un peu, etc. Donc c'est très, très confortable. L'an dernier, je l'ai fait en discutant avec mon frère toute la montée, donc à un rythme très, très agréable. Et c'est plutôt vers le col de la Seigne, c'est au niveau du col de la Seigne où là, pour la première fois, je suis obligé de me challenger un peu pour monter correctement. Tu vois, juste se relancer un peu, tu vois. Parce qu'en plus, t'approches de minuit, donc t'as tendance à te poser un peu. Là, c'est le moment où il faut que je me remette un peu dedans. Faut faire très attention parce que souvent là-haut, les descentes, il y a du brouillard, etc. Donc là, il faut vraiment se remettre focus. Et par contre, c'est au niveau du grand col Ferret où là, tu rentres vraiment dans le truc. Et là, c'est là où il faut mettre l'énergie. C'est là où il faut sortir les tripes. C'est là où ça devient dur. Je l'ai vu encore l'an dernier. Tout allait bien. Là, j'arrive à Arnouva, le sourire aux lèvres. Voilà. Et c'est vraiment dans le grand col Ferret où tu commences, c'est le kilomètre 100, hein, où tu commences à ralentir. Et du coup, c'est là où tu mets en place tout ce que t'as prévu, quoi. Je sais pas, une musique violente, des pensées qui te bonifient, enfin ce qui te fait plaisir, mais c'est là où tu te sors les tripes, quoi, et pas dans le col du bonhomme, ouais.
Alors, avant de passer sur la suite, tous les trucs que tu viens de me détailler là, la musique violente, tu m'expliqueras ce que c'est après.
Ah, j'en mets plus.
Les pensées. Ah, tu mets plus. Oh, les pensées qui te bonifient, est-ce que ça c'est issu des années Coupe de France cadet VTT ou est-ce que c'est issu de ce que t'as fait en prépa mentale, est-ce que c'est l'expérience du trail, la rencontre avec d'autres coureurs qui t'ont avec lesquels vous avez partagé des trucs, ça vient d'où tous ces outils?
Non, c'est issu du home trainer. Tu sais, quand tu te fais chier sur le home trainer.
Ouais.
Du coup Alors moi j'ai une tablette devant moi là sur le home trainer,
ouais.
Et je scroll YouTube, et donc des fois je trouve des... Tu sais, t'es en train de faire ton... Alors ça dépend de l'exercice que tu fais, tu vois. T'es en train de faire ton exercice, tu fais passer.
Il y a des séances où tu peux pas vraiment scroller quand même, hein.
Oui, bien sûr. Des fois
tu scrolles pas, quoi.
Ouais, en plus vu que moi je paye pas YouTube, tu sais, des fois tu as la pub, donc t'es en train de faire ton Jiménez. T'attaques une minute PMA, putain, c'est la bonne vidéo et tout, t'envoies, et d'un coup, une pub pour Soch qui arrive. et du coup, ouais, en fait, j'ai tout un panel de musique, finalement, que j'ai trouvé un peu par hasard, tu vois, là-dessus. Alors, c'est tout et n'importe quoi. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être DJ Matafan qui fait raclette party, ça peut être... Ça peut être du... Tiens, hier, j'ai mis du death metal, là, parce que c'était dans une version remixée du Seigneur des Anneaux, enfin bref. Ça peut être aussi, tu vois, un petit 50 Cent qui a toujours son petit effet, plein de choses comme ça. Et en fait, tellement je les écoute, parce que moi, quand j'aime un truc, je le passe, je le repasse, je le re-repasse. Bah après, juste en y pensant, en fait, je m'en suis rendu compte l'an passé. C'est bon, ça me met déjà dans l'état de transe un peu voulu. Et j'ai plus besoin de l'écouter ou, tu vois, d'amener un appareil supplémentaire. Et là je diminue mon stress et ma logistique sur un UTMB parce que, tu sais, il y a beaucoup de matériel, etc. Et quand tu peux enlever le téléphone ou le MP3 ou les oreillettes, ça fait plaisir. Alors le téléphone, j'ai toujours une espèce de daube au fond du sac là pour envoyer un coup de fil comme demandé sur le matériel obligatoire, mais j'ai pas mon iPhone traditionnel. Donc ouais, ça vient du home trainer où j'ai regardé beaucoup de vidéos. Ça peut être aussi les vidéos du Tour de France remixées, tu vois, celle de Lance Armstrong, que j'ai après commenté moi-même. Mais la version originale était déjà excellente avec des musiques de fond rigolotes, The Last of Mohican, là, des trucs comme ça.
Et toute la partie de checklist, là, tu réponds pas, parce que ça, je doute que tu le trouves. Autant les musiques et les meilleurs moments des attaques de Lance Armstrong, je comprends qu'on les trouve sur YouTube, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais toute la partie de checklist.
C'est quoi ça?
Checklist de veille de course, de plan de stratégie de course.
Ah ouais,
ça, tu le sors d'où ça?
J'ai tous les documents sur
ordinateur. C'est la Coupe de France cadet. Ouais, mais c'est, je veux dire, c'est sorti non, comme non, ça. Un matin, tu t'es réveillé, les mecs, je vais faire des checklists. Calmez-vous.
Non.
Ou alors, est-ce que ça a maturé? On te l'a suggéré, tu l'as travaillé. Ça se passe comment le côté de checklist?
Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai étudiant, je pense en DUT, j'avais déjà plein de feuilles où je notais tous les trucs à faire dans la journée, tu vois. Parce qu'il y avait les études, le sport à plus ou moins haut niveau, j'étais en sport-études, etc. Donc ça, bon, ça, les journées s'enchaînaient assez rapidement, même si à l'époque je jouais à la PlayStation. Et du coup, ouais, j'avais toujours un peu une liste de choses à faire avec moi, tu vois. Enfin, en cours, j'écoutais pas trop, donc j'écrivais sur un papier tout ce que j'allais faire en rentrant. Et quand j'ai fait mon premier UTMB en 2018, enfin même pour la TDS, hein, j'avais écrit déjà, tu vois, mais c'était, j'avais fait tout seul, hein, il n'y avait pas de coach nutrition, il n'y avait pas, j'avais écrit des petits temps de passage, alors c'était assez fumeux, hein, bien sûr, c'était les premiers, tu vois, donc tu en écris un, quoi, voilà, t'es pas trop convaincu, mais bon, j'avais mis du ravito, je comptais n'importe comment. Et je comptais les kilocalories, alors qu'en fait, des fois, je bouffais des trucs un peu trop gras, des fois, des trucs un peu trop protéinés, tu vois, ça allait peut-être pas tout de suite rapidement dans le sang comme des glucides, donc c'était peut-être pas terrible. J'écrivais mes ravitos comme ça, là, et puis année après année, j'ai affiné. Par exemple, en 2019... Ah oui, j'avais reçu l'aide d'Alain Roche pour le faire, mais bon, finalement, j'avais pas trop écouté, parce que... Dès que je sentais que ça allait un peu moins bien, j'ai repris un peu tout ce qui me tombait sous la main. En 2021, après, on commençait à être pas mal parce que j'avais embauché Sébastien Diefenbrom. Et puis après, on a tout fait ensemble. Et depuis, j'ai acquis une certaine autonomie, du coup, vu que on a fait 3 ans à faire des plans ensemble. Mais ça s'est construit sur l'expérience, en fait. C'est pour ça, je pense qu'il faut toujours commencer. La première fois est toujours plus ou moins ratée, hein. Dans n'importe quelle chose qu'on entreprend. Mais par contre, quand on recommence et on recommence, bah, si on n'est pas trop con, on s'améliore. Ouais.
Avant qu'on revienne sur le... Mais c'est un petit peu lié vraiment sur le mental. On va parler un petit peu de la nuit. Quelle influence ça a sur toi, la nuit? Parce que vous partez à 18h, vers minuit, quand il commence à y avoir un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, et que la nuit est bien présente, qu'on y voit comme à travers une pelle. Comment tu te sens? Est-ce que au contraire ça va? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce que t'attends avec impatience le lever du soleil? Ça a quel effet sur toi la nuit?
Ouais, ben tu vois, au début ça fait super peur parce que tu te dis putain, mais en fait je vais courir toute la nuit, quoi. Ça va être un peu long. Du coup, tu stresses par rapport à ça, donc t'essayes de blinder là-dessus. Moi, j'avais fait un peu des... Non, j'avais rien fait, en fait, la première année. J'avais rien fait. Je m'étais dit, oh, c'est pas grave, on y va, on fonce. Bon, ça marche pas.
Ça marche pas comme méthode.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai somnolé toute la seconde moitié de la course. Bon, c'était pas terrible. Deuxième année, j'ai dit, bon, il faut une stratégie pour la nuit. Là, j'ai dit, ah, il faut de la caféine. Problème, j'en ai pris trop tôt, tu vois, direct à 17h, café. Pendant la course, tout de suite, bam, capsule de caféine, en dosant rien, hein, donc en les prenant au pif, ce qui est du coup pas terrible, parce que des fois, t'en prends trop, des fois, t'en prends pas assez. Mais c'était pas mal. C'était mieux déjà, c'était mieux, tu vois. C'était pas top, mais c'était mieux. Et puis au fur et à mesure, tu domestiques un peu le truc, tu comprends qu'en fait, il faut manger un peu plus salé, ça a tendance à un peu te réveiller, un peu plus protéiné. Alors évidemment, il faut pas se nourrir que de jambon pendant toute la nuit, mais voilà, orienter un peu différemment. Et il y a un truc un peu, voilà, c'est un peu bourrin, mais plus tu en fais... Eh ben, plus tu y arrives. Tu vois, plus ton corps est habitué à courir la nuit. Alors évidemment, si tu fais un entraînement nocturne par semaine, tu vas te cramer parce que le sommeil est quand même prépondérant. Mais tu vois, tu fais 2 ultras par an, bah au bout de 5 ans, tu gères beaucoup mieux la nuit que la première année, simplement par habitude. Et puis aujourd'hui, ouais, avec l'expérience que j'ai compris, c'est qu'en fait, bah la caféine, j'en ai pas besoin avant minuit ou 23h si tu veux, mais en tout cas pas au départ à 18h. Parce que je suis déjà très excité de la journée, de l'ambiance, etc. Donc pendant les 2-3 premières heures de la course, il n'y en a absolument pas besoin. Et par contre, ouais, quand on rentre dans la nuit, on prend un petit peu sa caféine. Tu vois, on a passé le ravito des contamines. Donc éventuellement, on a pu repartir avec une petite tranche de jambon enroulée dans un petit bout de pain de mie, mais pas trop gros parce que c'est pas très digeste. La frontale, c'est important aussi d'éclairer comme un cochon hein, la nuit. Souvent, au début, tu te dis « Oh putain, faut pas que je change la batterie, ça fait chier et tout. » Du coup, j'éclaire pas trop. Et puis, si je peux l'éteindre, je l'éteins. Moi, maintenant, je mets pas la pleine puissance, mais presque. Et voilà, et j'envoie la purée. Comme ça, j'ai vraiment un gros phare qui réveille toute la nuit. Et ça, c'est vrai que ça joue pas mal. Ça, bah, je l'ai entendu de la bouche d'Antoine Guillon. Je me suis dit, tiens, Antoine Guillon en ultra, il est costaud, il a sans doute raison, je vais l'écouter, je vais tester son truc. Et puis, une fois que j'avais testé, j'ai dit, bah ouais, c'est super, en fait. Donc voilà, cette nuit qui, au final, me faisait très, très peur au début, et bah, tu vois, en 2, 3, 4 années, elle a été plus ou moins domestiquée. Et aujourd'hui, bah, c'est sûr, t'y vas pas comme ça, la fleur au fusil, mais... Tu connais et t'es plus trop inquiet, quoi.
Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de l'état de transe voulu. Est-ce que tu te souviens d'une anecdote de course, d'une course plus précisément, où tu étais justement totalement libéré dans cet état de transe qu'on peut rechercher, ce moment de libération totale, qu'on appelle aussi le flow.
Ouais.
Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux me le raconter? Avec moult détails.
Ouais, bah si tu veux, il y a le... Tiens, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2022 à la 30 Grand Canaria. Pas de bol, donc là t'attaques à 23h, t'attaques de nuit, hop, et puis à 2-3h du matin, à 2h du matin. Pas de chance, il se met à pleuvoir. Tu traverses l'île, et c'est vrai que quand t'es un peu au centre, les nuages sont un peu accrochés, et souvent il y a une météo un peu rugueuse au centre de l'île, ce qui dénote totalement avec le sud où tu vas finir la course, qui lui est souvent très chaud et très ensoleillé. Bon, on fait toute la nuit sous la flotte, donc c'est chiant, quoi. Tu vois, t'as la norak, la pluie tombe dessus, ça fait du bruit, ça te met une tête comme ça, là, ça te gonfle. Et on sort de la nuit. Évidemment, vu qu'il pleut et que t'as la norak, bah, t'as un peu moins bu, t'as un peu moins mangé, parce qu'à chaque fois, c'est chiant, faut ouvrir, faut refermer, etc. Et on sort de la nuit, et là, j'ai un petit coup d'excitation assez, assez léger, mais on va dire que je passe devant le groupe avec qui j'étais, et je commence à me rapprocher du top 10, entre 5 et 10, on va dire. Et puis j'ai un gros coup de moins bien, donc je m'arrête longtemps en ravitaillement. En fait, j'avais pris une petite hypothermie, hypoglycémie, tu vois, un peu les deux en même temps, quoi, un vrai coup de moins bien. Donc je m'arrête un bon quart d'heure au ravito, je me change un peu avec ce que j'avais de sec dans un sac plastique là dans le dos. Heureusement, j'avais pris ça. Et je change de chaussures parce que mon frère était là, c'était une zone d'assistance autorisée. Et là, je repars, tu vois, après un quart d'heure à bouffer et à remettre des habits chauds. Et là, je repars, tu sais, je trottine. Et putain, tout de suite, je sens que ça va bien. Donc, je suis passé d'un statut mental où j'étais arrêté par terre à changer mes chaussures et à avoir froid, à me dire, ah, mais en fait, ça va. Et progressivement, je suis rentré dans le truc. Et là, ouais, j'ai fait 2 heures plus rapide que tout le monde. J'avais le 4e meilleur temps derrière Pablo Villa, Pocapel et Pere Aurel. Donc j'ai évolué sur des temps légèrement plus rapides que Baptiste Chassagne pendant 2-3 heures. Ça faisait quasiment 40 kilomètres, mais plutôt descente, donc ouais, 3 heures. Et là, ouais, je doublais énormément de gens parce qu'en plus on commençait à rattraper d'autres parcours. Donc là, ouais, il y avait un statut un peu de flow. Et c'est à ce moment-là, souvent, où tu t'emballes un peu en descente et où tu descends un peu trop vite. Et c'est vrai que, après, bah, le, et vu qu'il restait encore 30 bornes pour aller à l'arrivée, le flow est parti et ça a été un peu plus dur pour aller à l'arrivée. Mais ça va, j'ai pas trop, trop mal fini, franchement. Mais par rapport à cette section, on va dire entre le kilomètre 85 et, ouais, 105, ouais, une vingtaine de bornes. Il y a eu une vingtaine de bornes où j'étais vraiment dans le flow. Et en fait, le quart d'heure que j'avais perdu sur mon groupe, je l'ai rattrapé en l'espace de 2 heures de temps, à peu près. Donc, je suis vraiment allé plus vite que tout le monde et sans faire attention, quoi. J'étais dans le truc, quoi.
Est-ce que tu as eu le temps depuis de réfléchir à qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans la zone?
Bah, en fait.
Est-ce que c'est le fait d'avoir lâché, d'avoir pris une hypo? Et de plus être dans le groupe de tête et de repartir en te disant, bah, Balek, j'y retourne et puis on verra bien. Ou est-ce que c'est autre chose?
Non, j'avais prévu en 2022 à la Trans Gran Canaria, c'est la première course que j'ai faite en prévoyant mon pacing, tu vois, plutôt doux au début. Et vers la moitié, on commence à s'exciter un peu et si possible, on finit fort. Tu vois. Donc au début, je me freinais, j'étais loin, hein, j'étais plus de 50e. Et puis je suis revenu. Dans les 15 premiers à la mi-course, on va dire. Mais ça, c'était un plan qui était prévu. Et il était prévu d'accélérer après la mi-course qui est Artenara, là, au kilomètre 62. Sauf que bah là, j'ai commencé à accélérer, tu vois. J'ai commencé à rentrer dans le truc. Donc, j'avais prévu cette accélération. Mmh. Et c'est là où bah, le coup de froid de la nuit, ça, je l'avais peut-être un petit peu mal anticipé. Parce que c'est vrai que quand tu vas aux Canaries, même si je savais que tu pouvais avoir des mauvaises conditions, bon... t'emmènes un kawaii, mais bon, voilà. Là, il avait plu pendant plusieurs heures sur nous. C'est quand même une nuit plutôt horrible. Je pense que c'était une de mes pires nuits. Et du coup, ce que j'avais prévu, en fait, c'est fait fractionner en deux. C'est-à-dire que, hop, je commence un peu à accélérer. Et là, tu sais, tout de suite, quand tu descends bien et tout, là, tu rentres dedans, quoi. Tu vois, et du coup, bah, l'avion a été stoppé en vol. Et il a fallu faire une pause. Et après, bah, hop, je suis revenu dedans et j'ai su m'y remettre. Mais à la base, c'était un peu anticipé.
Et qu'est-ce qui t'en a fait sortir? Parce que c'est bien beau de rentrer dedans, mais comme tu l'as dit, ça dure pas toute la vie.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a fait sortir?
Bah, tu vois, c'est un état d'euphorie. Et c'est vrai que du coup, quand tu es dedans, comme tu le dis, c'est du flow, de l'euphorie. Enfin, on appelle ça comme on veut. C'est le moment où on va vite, où l'effort est agréable. Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que notre esprit, du coup, prend le relais et nous permet d'aller vite et que tout aille bien. Mais du coup, nous ne sommes plus vigilants aux autres paramètres. Et peut-être qu'en descendant à 14 km/h au lieu de 13 sur une piste forestière, bon, je dis n'importe quoi, mais c'est pour te donner un exemple.
Oui, oui.
Quand t'es dans l'état de flow, tu sens rien et tu trouves ça agréable, même si c'est le kilomètre 100. En fait, c'était un poil trop rapide pour quelques minutes. Et du coup, tu payes l'addition après parce que bah, la ligne d'arrivée n'est pas tout de suite derrière la fin de ton état de flow, quoi. Qui lui, est limité dans le temps. Hein. On a beau...
Et oui.
C'est une cartouche qui ne dure pas éternellement, quoi. Et peut-être plus elle est intense émotionnellement et moins elle dure longtemps, peut-être, tu vois.
Tout à l'heure, tu m'as dit, et là, tu l'as un petit peu expliqué, sur l'UTMB ou sur toutes les courses, tu as ton plan de marche. À quel moment tu t'autorises à lâcher les gaz? À te dire, OK, je suis là, c'est bon, maintenant, je peux y aller, je suis à ma place. Allons-y. Faisons avec ce qui reste.
Ouais, en fait, tu lâches jamais vraiment les gaz. Encore que... Je vais te dire comment ça s'est passé, par exemple, l'an dernier, où, tu vois, j'ai été vraiment très précis, très dans le timing et tout. Donc au début, tu te freines un peu, alors tu discutes avec les gens qui sont avec toi et tout, voilà, c'est vraiment... putain, au début, c'est vraiment... Mais comme dit le grand François Denne, il faut accepter de se faire chier, en fait, sur les 50... sur la première moitié de l'ultra. Mmh. Là, le temps passe, et progressivement, tu vois que pour tenir les temps de passage, bah, t'as de moins en moins besoin de te freiner, et la mi-course passe... Et là, tu commences à voir que pour tenir les temps de passage, en fait, non seulement t'as plus besoin de te freiner, mais tu commences à devoir relancer à des moments, tu vois. Donc, à des moments, t'es dans une montée, tu dis, bah là, je vais faire un peu de marche et un peu de mini-tro pour booster un peu ma montée. T'arrives en haut, ok, t'as tenu le temps de passage, mais bah effectivement, il a fallu commencer à faire des efforts. La montée d'après, il faut faire un peu plus d'efforts, etc., etc. Et à un moment donné, tu commences à plus tenir le temps de passage. Tu vois, tu sais, tu commences à perdre une minute ou deux. Et là, ça y est, tu sais que c'est le moment. On rentre dans la bataille. Alors, t'espères que c'est le plus tard possible, évidemment. Et tu sais que tu vas devoir te battre à accélérer un peu tout le temps, quand c'est possible, pour justement venir grappiller les petites minutes, parce que visiblement, au rythme de croisière, ça passe plus. Ça y est, c'est le moment. Il faut que tu commences à te faire souffrir un petit peu, parce qu'au début, tu étais en train de te calmer, de vraiment te préserver. Et là, maintenant, il faut que tu utilises ton mental non plus pour te préserver, mais pour accélérer cette fois-ci. Parce qu'au début, c'est dur hein, de se calmer. Hein. Tu sais, t'es en forme, t'as préparé la course, tu t'es beaucoup reposé avant, tous les trucs un peu logiques, s'entraîner et puis se reposer. Donc forcément, au départ, tout va bien. tout va très bien. Et en fait, ce qui est dur, c'est de pas partir trop vite. Et pendant plusieurs heures, hein, pas seulement la première heure. Mmh. Et après, ce qui est dur, c'est de se motiver à aller plus vite. Parce que t'as les jambes un peu lourdes, voilà.
Tout à l'heure, tu m'as parlé de tes pensées bonifiantes. Ça va être quoi, par exemple ?
Ah, c'est Rambo, souvent. Ou... Je visualise
en Rambo, c'est ça, ouais.
Ouais. Bon, après, ouais. Tu pars dans le domaine du rêve, des conneries comme ça.
Ouais.
Ça marche bien, hein, ça. Alors, il y en a, tu vois, mon frère préfère les Marvel, par exemple, les super-héros Marvel. Voilà, chacun un peu son truc. Et après aussi, des fois, tu sais, on est là, tu vois, on fait du sport et tout, puis on se prend un peu pour des héros. Et moi, j'ai mes grands-parents qui étaient agriculteurs. Et en fait, agriculteur, c'est dur. Et du coup, j'essaie de me remémorer des moments où je les ai un petit peu aidés, où je les ai un petit peu côtoyés dans leurs tâches difficiles, qui étaient un peu rares, hein, parce que tu sais, c'est des grands-parents, donc ils avaient un peu fini le job quand moi je suis arrivé sur mes jambes. Mais voilà, ils ont quand même encore un peu allé au foin. Bon, ils avaient plus de bêtes, mais ils allaient encore un peu au foin, etc. Et tu vois, j'essaie de me rappeler. Tu sais, quand c'est dur à la fin, tu vois, t'as passé la nuit, le soleil s'est levé, puis 2-3 heures après... Il fait un peu chaud, hein, parce qu'on est fin août, etc. T'as chaud, t'es dans la montée, tu te dis, ah, putain, c'est dur et tout, t'en as marre. Et là, je me dis, attends. Ta grand-mère, elle fait les foins, il fait 40 degrés, la pente, elle est à 40%, donc on peut pas y aller avec le tracteur, du coup, elle y fait la faux. Et toi, t'es en train de me dire que la montée à Berton est difficile. La montée à Bovine est difficile. Non, c'est pas dur. Et d'ailleurs, ça c'est amusant, tu me disais que tu avais interviewé Stéphane Brognard. Et bah, je me souviens de son accent vosgien. Je vais essayer de l'imiter, mais ça va être nul. Non, c'est pas
ça
dur.
Ça va être trop.
Quand il dit non, c'est pas dur. Ça j'aime bien. Toi,
sans déconner, tu y arrives pas du tout.
Hein. Ouais, bah, sans doute. Moi, je suis pas du tout vosgien.
Là, bah, tu peux pas avoir que des défauts non plus, mais disons que ouais, c'est un petit peu plus rude, tu vois. C'est mais non, c'est pas dur.
Ouais.
Wow. Après là, on se comprend parce qu'on a mis le traducteur simultané, mais vraiment quand il te parle vosgien, tu comprends pas.
Ah oui.
C'est pas possible.
Et du coup, je me souviens aussi de trucs comme ça des fois pour relativiser un peu l'effort. Tu te dis attends, t'es venu là de ton plein gré. Tiens d'ailleurs, t'as payé pour ça. Arrête de te dire ouais, mais je suis un sportif, puis là je vais moins vite. Oh, c'est une catastrophe et tout. Non. Et arrête ça là, tu retournes et tout, voilà, ça va, quoi. Il y a les gens, ils sont venus t'encourager, parce que, tu sais, sur l'UTMB, il y a beaucoup de spectateurs, c'est aussi une particularité de la course, d'autant plus sur la fin. C'est vrai que la nuit, t'es un peu tout seul, par contre, quand t'arrives à la fin, bah, tu retrouves le public. Et toi, si t'as lamentablement explosé, si tu veux, tu passes un peu pour un con. Donc, tu penses aussi à ça, tu te dis, ah putain, mais attends, la montée d'après, je sais qu'il y a plein de monde là vers Trian, ah putain, faut que je me ressaisisse et tout. Donc, ouais, il y a ça aussi qui intervient, ouais. Ça marche de mieux en mieux d'ailleurs.
Donc
ça marche de mieux en mieux de se dire que t'es suivi et que finalement si tu fais une connerie, ben tu vas un peu passer pour un boulet auprès des gens qui te suivaient. Tu sais, typiquement, ben, tu vois, il y a toujours beaucoup de gens qui abandonnent hein, sur ces courses-là. Alors quand c'est un anonyme, bah tout le monde s'en fout parce qu'on le voit pas. Mais quand c'est le mec sponsorisé par telle marque, tu sais, t'as toujours, à chaque fois c'est le même schéma. Il met une photo, ouais, j'y suis pas arrivé parce que c'était dur ceci, c'était dur cela. Oh là là, pourtant je me sentais bien au début, machin, truc. Et t'as l'impression qu'il y a un copier-coller qui se fait chaque année entre tous les gens qui abandonnent. Et ils te resservent la même soupe pour expliquer à quel point ils y sont pas arrivés. Et les gens à chaque fois disent « Ouais, c'est bien, t'as été courageux quand même, bravo. » Mais il y a une déception pour le public. Il y a une déception. T'annonces que tu fais l'UTMB, tu fais le barbeau là, pendant 6 mois. Et puis finalement, au bout de 6 heures, tu décrètes que c'est dur ou qu'il faisait trop froid ou que je sais pas quoi. Et du coup, t'abandonnes. Les gens, tu les déçois. Ils le disent pas forcément, mais tu les déçois. Et quand tu y penses, tu te dis « Ah, attends, ouais. Attends, là, je suis en train de monter trop vite. Du coup, je vais exploser plus tard et je vais passer pour un con auprès de tous ceux qui sont venus me voir. Donc, non, je vais me calmer un peu et je vais assurer parce qu'en fait, il faut que je passe devant eux plus ou moins dans les temps de passage que j'ai dit pour pas trop passer pour un rigolo, quoi.
Ça te gêne de passer pour un con ?
Ah bah ouais, quand même. Quand t'as réfléchi... plus ou moins à ce que tu allais faire et que tu l'as présenté. Parce que tu sais, moi, j'entretiens un blog payant, là, le Patreon, donc je décris toutes mes actions de l'année, grosso modo, hein, pour arriver en forme le jour J. Et si le jour J, tu leur dis « Non, mais vous inquiétez pas, les gars, je pars doucement, je passe en 2 heures à Saint-Gervais », t'arrives à Saint-Gervais en 1h48 à 30 secondes du groupe de tête et que 6 heures après, t'abandonnes en disant « Bah, je comprends pas, j'ai eu mal au ventre », les mecs, ils sont là « Mais en fait, pendant 6 mois, tu nous as raconté des conneries sur ton blog payant et tout, tu nous prends pas pour des jambons, là. » Donc t'as une responsabilité, tu vois, après, vis-à-vis du discours que t'as eu. Ça s'appelle l'exemplarité. Il y en a beaucoup qui l'ont plus. Ils ont oublié.
Alors, est-ce que tu te souviens d'une course où tu as dû aller creuser un petit peu plus loin, aller un petit peu plus que le foin de ta grand-mère ou l'exemplarité que tu pourrais donner aux gens qui te suivent? Est-ce que tu as un exemple où vraiment il a fallu aller racler les fonds de tiroir parce que vraiment ça n'allait pas du tout et que tu as été à deux doigts d'arrêter et que tu t'es accroché et à quoi tu t'es raccroché, si tu t'en souviens?
Tu vois, pour répondre à cette question précise, je pense que la meilleure personne à interviewer, ce serait Alexandre Bouchet, casquette verte, parce que lui, il a vraiment... Il arrive à aller chercher des ressources mentales. Oh, je ne sais pas comment il fait, mais il est très impressionnant dans ce domaine. Tandis que moi, sur cette question précise que tu viens de poser, c'est-à-dire une fois que tu as utilisé un peu tous tes stratagèmes connus, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, j'ai tendance à... Ben là, c'est le moment où je capitule, quoi, en gros. Et alors, je ne vais pas abandonner. Mais je rentre à la maison... Bah, doucement, quoi. Tu vois, c'est foutu, quoi. C'est le moment où c'est un peu foutu. Typiquement, l'échappée belle en 2020. Bon, bah, le début de course était dur parce que très technique, très chaud. La nuit s'est mieux passée parce qu'il faisait moins chaud, etc. Et puis le lendemain, au petit matin, bon, je commençais à avoir très mal aux pieds et tout. C'était le plus long effort que j'avais jamais fait, 29 heures et quelques. Ouais, si tu veux, à la fin, j'ai fini, mais vraiment pas vite. J'ai fini pour finir, mais il y a plus eu de pensée. Ouais, j'ai juste avancé, quoi. Et je n'ai pas... Je n'avais pas de solution mentale à apporter à ça. Et j'ai simplement continué pour passer la ligne parce que j'avais pas de gros problèmes qui m'en empêchaient. Mais d'un point de vue purement sportif et compétition, c'était foutu.
Est-ce que, malgré tout, l'idée d'abandonner t'a traversé l'esprit ? Parce que, sachant que ton objectif de résultat était grillé, pourquoi continuer ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que, malgré tout, tu continues, même extrêmement doucement, pour passer la ligne ? Et en quoi passer au moins la ligne est important ?
Pourquoi
ne pas avoir abandonné alors que c'était mort de mort, si ouais, tu veux faire un résultat ?
J'étais plus très loin, en fait. Tu vois, il devait rester une trentaine de kilomètres quand vraiment quand vraiment j'ai senti et compris que bon là on allait finir comme on pouvait quoi. Donc j'étais plus très loin. Du coup bon autant y aller, tu vois, il y avait pas de problème particulier, je ne me mettais en danger sur absolument aucun plan. Par contre, l'an dernier, c'est vrai que j'ai abandonné le 100 miles of Istria, ce qui constitue mon troisième abandon après une gastro au Ventoux et une fracture de la rotule à La Réunion. Troisième abandon, donc, le 100 miles of Istria. Et là, par contre, j'ai abandonné la course alors que j'aurais pu la finir. Parce que, comme tu dis, l'objectif sportif s'était envolé. Par contre, j'ai quand même pris un risque en abandonnant la course parce que du coup, je ne gagnais pas les fameuses 4 running stones qui se promettaient à chaque finisher. J'ai abandonné parce que j'avais très mal en fait sous un pied, j'avais une boule sous le pied, donc j'ai une fibre de collagène qui a mal poussé, qui a fait une boule sous le pied, et à force de marcher dessus, bah évidemment, au bout d'un moment ça s'enflamme. Et j'étais arrivé à un point où j'avais fait 20 km en marchant sur une surface plutôt plane. Donc là je t'explique pas où on en était d'un point de vue sportif, et en fait... À cause de la boule sous le pied, j'avais évidemment modifié ma foulée. Tu sais, tout ce que t'expliquent les kinés à chaque fois. Et en modifiant sa foulée, bah, t'as mal. Donc j'avais la boule sous le pied gauche. En modifiant ma foulée, j'ai eu mal au genou droit. Puis après, à la hanche gauche, etc., etc. Puis après, j'avais tellement mal sous le pied que j'arrivais plus à courir. Donc si tu veux, on était arrivé à un point où même marcher était très douloureux. Et là, j'étais à 30 bornes de l'arrivée. Donc sur un 100 miles, c'était pas loin, hein. Si tu m'aurais mis un fusil sur la tempe en me disant « Bon, il faut que tu finisses », bon, j'aurais pu le faire en marchant, tu vois, j'aurais mis à peu près 6-7 heures. Et puis voilà, parce qu'il n'y avait plus trop de dénivelé, il n'y avait vraiment plus grand-chose. Mais j'ai abandonné, parce que en mettant 6-7 heures, ça allait me foutre à peu près 50e, donc bon, ça me tapait, quoi. Mais surtout... Pour que je marche, j'étais arrivé à un point de douleur vraiment élevé. Et je me dis, là, si tu continues 6-7 heures dans cet état-là, déjà, ton état va peut-être se dégrader, tu vas peut-être mettre plus de temps. Mmh. Et alors, derrière, mon pauvre, pour guérir de ça, parce que plus tu t'entêtes à te faire du mal, plus tu mets longtemps à guérir, c'est assez logique. Derrière, ça va être compliqué. Sauf que moi, 2 mois et demi après, j'avais la possibilité de refaire une grande course Lager Ultra Trail. Et du coup, là, je me suis dit, ce qui est un raisonnement que j'aime pas trop avoir en temps normal, mais bon, tu vois, là, je souffrais un peu et tout, je me suis dit, bah écoute, t'es allé un peu déjà assez loin, hein, quand t'as fait 20 km en marchant alors que t'aurais été capable de les courir normalement, c'est que déjà, t'as poussé un peu dans la connerie. Je me suis dit, bon, allez, on s'arrête. Derrière, on guérit. Et normalement, je devrais avoir la possibilité de faire Lager à un plutôt bon niveau. Et c'est par chance ce qui s'est passé. Mais quand même, tu vois, j'ai quand même fait, pour guérir derrière, il y a eu un mois d'arrêt de la course à pied. Hein, en plus des soins kinés, etc. Il a fallu s'arrêter pendant un mois de courir. Donc cette fois-ci, là, j'ai abandonné par choix.
Ouais. Mais là, c'est pas un abandon sur fracture du mental. Comme on dit par chez nous.
Ah, je sais pas.
C'est quand même un petit peu de la sagesse pour préserver ton intégrité physique.
Et oui, mais...
Parce que comme tu le dis, c'était continuer, tu te fracassais à continuer comme ça. Et là, t'aurais mis 6 mois à t'en remettre.
Oui, peut-être.
Et l'idée, c'était de recourir 2 mois après.
Ouais, mais tu vois, tu aurais pu utiliser le mental pour te booster, tu vois. J'aurais pu tu vois, faire en sorte que, donc c'était encore une fois mon frère qui me faisait l'assistance, j'aurais pu faire en sorte qu'il me booste, qu'il me dise « Non mais vas-y Hugo, allez, allez !» Puis tu vois, je serais reparti du ravito, j'aurais continué, j'aurais pu insister, tu vois. Si,
ouais.
Mais il y a eu cet éclair peut-être de lucidité, hein, puis tu vois, c'est l'histoire que je raconte. Hein. Peut-être qu'en fait, j'aurais continué. Et va savoir pourquoi mon état se serait amélioré. Peut-être grâce à un boost mental. Peut-être grâce à... Tu sais, des fois, t'as mal, mais c'est... Voilà, donc c'est dur à dire. Peut-être que j'ai fait une mauvaise décision. On aurait pu continuer, ouais, en se forçant
peut-être.
Mentalement, en se boostant. Donc,
Et à Lager, ça s'est passé comment, physiquement et moralement?
Eh ben, ça s'est très bien passé, parce que du coup,
bah alors.
Un mois sans courir, tu vois, j'ai repris après, bah, très progressivement. Hein. Mais après, il restait encore un mois de pure préparation, donc je suis arrivé au départ dans une forme correcte. Et après, j'avais un peu de fraîcheur du fait de ce mois sans courir, donc ce qui fait que j'étais plutôt en forme. Et il y a eu encore un petit état d'euphorie, tu vois, que je gère peut-être un peu mal, hein, que j'ai un peu trop appuyé en descente. C'est vrai que j'ai pris une grosse chute, donc je me suis fait mal à un genou. Fort heureusement, c'était uniquement un hématome, donc j'ai pu finir la course, même s'il a fallu descendre moins vite après. Et ça s'est très bien passé. Donc, le bilan de tout ça, c'est que ça a été une bonne décision. Mais sur le coup, tu n'es jamais sûr.
Est-ce qu'au départ de l'Eiger, tu avais une idée, tu es parti avec une idée de résultat en tête? Parce que tu es arrivé dans une forme correcte, mais pas non plus dans un maxi pic de forme. Tu n'es pas arrivé avec une préparation sereine, tu revenais de blessure, avec peut-être une petite confiance légèrement effritée par un abandon. Tu étais dans quel état d'esprit au départ de l'Eiger?
Ouais, c'est exactement ça. Alors, ce que je m'étais dit, du coup, au départ de l'Eiger, c'est une course que j'ai déjà fait une fois.
Eiger.
Ouais, je suis pas sûr, hein, de la prononciation.
C'est pas grave, c'est en Suisse.
Oui,
c'est difficile.
En Suisse allemande, en plus.
En plus, alors bon, hein, Hartum.
Donc, j'avais déjà fait une fois. C'est très, très beau, hein, vraiment. Ceux qui n'y sont jamais allés, enfin, en plus, c'est pas très loin de chez moi, donc tu vois, c'est assez agréable comme trajet. C'est une course qui correspond plutôt à mes qualités, hein. Pas très technique, il y a un peu de montagne, voilà. Donc je me dis, bon, t'arrives en terre un peu connue, voilà, ça va, c'est sympa. Le but, c'est une course by UTMB, ce qui va être intéressant, c'est de te qualifier à l'UTMB 2024. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut que tu cotes à plus de 800. Ok, moi j'avais déjà fait cette course en 2017, et en 2017, tu vois, j'étais beaucoup plus jeune, moins entraîné, moins de connaissances qu'en 2023. Et en 2017, j'avais déjà coté à 808. Donc je m'étais dit, bon alors maintenant, hein, les cotations, tu sais, elles baissent chaque année pour par rapport au niveau qui augmente, pour ne jamais dépasser 1000. Enfin, tu vois, ils ont affiné leur truc comme ça, donc c'est peut-être pas très bien de faire une comparaison, mais ça me rassurait de me dire, bon, écoute, en 2017, t'as été capable de le faire avec le peu de connaissances que t'avais. Bon, là, t'es en 2023, t'es dans une forme au moins similaire, voire quand même peut-être un peu plus. Surtout, j'avais plus d'endurance avec les années. Donc, je me suis dit, bon, t'as toutes les cartes en main pour réussir 800. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas partir trop vite. Faut être dans l'effort correct, régulier, jamais excessif. Et normalement, tu passes la ligne au-dessus de 800. Vu les têtes d'affiche qui sont présentes, bah, tu vas être plus ou moins dans le top 10. Voilà. On fait ça. Donc, je suis parti. Du coup, à chaque fois, quand tu veux partir un peu doucement, bah, tu te retrouves 30e. Hein. Il y avait même la première dame qui a fait un peu de temps devant moi. Enfin, remarque, elle finit 11e hein, au scratch. Donc, Catherine Hartmut. Et après, bah, rapidement, au bout d'une heure et quart, tu commences à rattraper ceux qui sont partis trop vite. Donc là, je me suis foutu... ouais, j'étais dans le top 10. Je devais être 9 ou 10. Et on avait un petit groupe et c'était génial. On a évolué comme ça pendant 3-4 heures. Et après, je me suis senti mieux et j'ai accéléré, je suis passé devant eux. Et puis, tu vois, finalement, j'ai fini quatrième. Donc, c'était une course rondement menée, hein, à part cette chute qui était de ma faute, parce que vraiment, je descendais trop vite à ce moment-là. Donc, par rapport à mes capacités techniques, je prenais des risques. Et bon, bah voilà, hein, quand tu prends des risques, bah des fois, il t'arrive des choses regrettables. Et du coup, cette Eiger, en fait, j'étais assez serein au début parce que mon objectif était de me qualifier pour l'UTMB 2024. C'était pas trop dur, c'était dans mes cordes, il fallait juste pas faire une grosse connerie. Donc voilà.
Donc si je résume, tu t'es focalisé sur ton plan de marche, sur l'exécution de que faire pour se sélectionner, pour être sélectionné à l'UTMB, mais t'es pas parti en te disant ah, je vais faire cinquième et je vais tous les niquer.
Ouais, non. Justement, ouais, de moins en moins, je me focalise sur les autres adversaires, sur la place, parce que, ben, en fait, je me suis rendu compte que je ne peux pas les maîtriser. Alors, tu me diras, bah oui, mais si tu vises 19h à l'UTMB, tu vas être premier. Oui, évidemment, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, en fait, moi, je suis dans un espèce de second groupe, si tu veux. Et dans ce second groupe, bah, des fois, va savoir pourquoi il y en a qui augmentent énormément leur niveau, parce que, bah en fait, tu le savais pas, mais pendant 2-3 ans, ils avaient des enfants en bas âge, puis là aujourd'hui ça va mieux, ils peuvent s'organiser mieux. machin, il est passé à 50% au travail, donc il récupère mieux, etc. Enfin, tu vois, des choses que tu ne sais pas, parce que c'est la vie personnelle des gens, vu qu'on est dans un sport encore quand même très amateur. Et du coup, tu ne peux pas gérer le niveau des autres. Par exemple, un coureur que tu penses connaître depuis 2 ans, bah, va savoir pourquoi cette année, il travaille à 50% et du coup, il est meilleur. Donc, tu peux pas te caler sur lui. Tu peux te caler sur personne. Tu peux te caler uniquement sur ton expérience par rapport aux courses que tu as faites. Et du coup, c'est vrai que quand tu vas pour la première fois sur une course, c'est un petit peu difficile. Bah, par exemple, ouais, tu vois, je suis allé sur Istria. Bon, c'était dur de se rendre compte des temps de passage. Alors maintenant, j'utilise aussi un peu le cardio-fréquence-mètre pour les montées. Un petit peu aussi sur les plats, pour voir par rapport aux plages cardiaques si c'est pas déconnant, tu vois, à plus ou moins 10 pulses, si t'es pas en train de faire une grosse bêtise. Donc tu peux te servir de plusieurs outils pour quantifier ton propre effort à toi, mais vraiment, ouais, j'essaye complètement d'oublier les autres. Après, je ne te cache pas que à Léger, je suis tombé. Pourquoi ? Parce que en haut de la grosse montée, j'étais 7e. Et j'avais vu passer le 3e à je sais plus, à 9 minutes, je crois. Et 10 bornes après, en fait, le mec, il était juste devant moi. Donc, si tu veux, j'étais surexcité. J'accélère. Et à un moment donné, le pied s'accroche à un caillou et paf.
Est-ce que tu as fini par le reprendre, ce mec ? C'est ça la question.
Oui.
Tu tombes, d'accord, mais est-ce que tu l'as bouffé quand même ?
Ouais, j'ai bouffé quand même. Alors après, il finit pas loin derrière moi parce que, tu vois, lui était parti trop vite, donc il a eu un coup de moins bien. Et puis finalement, il a fini fort. Et puis moi, vu que j'avais mal au genou, j'ai fini un peu doucement. Donc il est juste une minute derrière moi, je crois, mais du coup, je l'ai doublé au final.
Donc si je résume une deuxième fois, tu te focalises sur ton plan, sur ta stratégie, plutôt que sur le résultat. Et tu oublies, tu ne prêtes pas attention à ce que tu ne peux pas maîtriser, notamment nos adversaires.
Ouais.
Qui ne sont pas nos adversaires, enfin, qui sont nos adversaires,
ouais.
Et qui sont, ouais, c'est plus la dualité entre adversaires et ennemis. Ce sont des adversaires, mais certainement pas des ennemis.
Et par contre, tu vois, Richard, j'ajouterais un bémol là-dessus, c'est par contre, quand tu arrives sur la fin du parcours, peut-être le dernier tiers, tu vois,
ouais.
À ce moment-là. Donc là, tu vois, c'est le moment où tu es en train de lutter parce que tu n'arrives plus trop, ouais, à tenir tes temps de passage, donc tu es en train de lutter. Et là, toute motivation extrinsèque est bonne à prendre. Et si à ce moment-là, tu commences à être bien classé, alors je sais pas, ça peut être ne pas être loin d'un top 20, ne pas être loin d'un top 10. Là, par contre, ouais, tu vas commencer, ouais, à regarder un peu devant. Est-ce que le mec, il est en train de coincer ? Est-ce que je peux aller le bouffer ?
Bien
tu vois,
sûr.
Tu vas commencer à te servir des autres parce que toi, tout seul, tu n'y arrives plus.
D'où la question, à quel moment tu t'autorises,
ouais,
à aller chercher, à entre guillemets se lâcher un petit peu, ou à aller chercher un petit peu ailleurs d'autres stimuli, d'autres formes de stimulation. C'est là que tu peux sortir Slayer, par exemple.
Ouais, putain, ça c'est un groupe violent, ça. Ça va être, ouais, comme je te dis, sur le dernier tiers, hein, typiquement sur un UTMB, pour moi, ça va être à partir de La Foulie ou de Champais. Par exemple, cette année, il y avait beaucoup de gens qui m'ont encouragé à Notre-Dame-de-la-Gorge. C'était évidemment très bien, très sympathique. Mais outre le fait de rigoler un bon coup, je n'en avais pas du tout besoin à ce moment-là. Après, c'est symbolique, hein, c'est le début de la nuit et tout. Par contre, ouais, quand ils sont venus, parce que certains ont encore fait l'effort de se déplacer à Valorcine, là, tu vois, j'étais pas bien, c'était très dur, c'était la fin de la course. Mais ils m'ont, là par contre, ils m'ont vraiment reboosté. Hein. Là vraiment, je suis reparti du ravitaillement de Valorcine dans un état largement meilleur que quand j'y suis arrivé. Et c'est uniquement grâce à leurs encouragements, tu vois.
Au niveau de la... Tu en es où au niveau concentration ? Tout à l'heure, on a parlé de ton état de veille de course ou de ta zénitude sur une ligne de départ. Mais pendant la course, est-ce que tu estimes que tu es plutôt focus, ou au contraire, est-ce que tu papillonnes à droite à gauche à regarder les oiseaux et les gonzesses au bord de la route ? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt étanche et hermétique à ce qui se passe autour de toi et focalisé, comme on l'a dit à l'instant, sur ce que toi, tu dois faire et ce que tu dois exécuter?
C'est un peu les deux. Je regarde quand même pas mal ce qui se passe parce que, tu sais, moi, c'est des objectifs d'ultra-trail et du coup, tu ne vas quand même pas très très vite. Donc bon... T'as le temps de regarder dans la montée, la première montée là après les ouches. Voilà, je regarde un peu devant qui c'est, tu vois, je regarde un peu en haut, je regarde un peu derrière, qui est-ce qui est par là, etc. Les spectateurs, voilà, j'échange un mot, voilà, je les remercie, ceux qui t'encouragent. C'est un peu un entre-deux, ouais. Après, bien sûr, on regarde. Donc moi, je regarde le cardio, hein, qui monte pas trop dans la montée, tu vois, je le vérifie régulièrement. Le chrono aussi, pour voir si c'est pas déconnant, parce que peut-être que, en fait, à cause de la météo, bah, tes pulsations sont un peu plus hautes. Tu sais, quand il fait chaud, t'as des pulsations un peu hautes. Donc voilà, faut regarder à la fois le chrono et à la fois le cardio pour être un peu dans les clous. Donc c'est un mélange des deux, ouais. C'est un mélange des deux. Il y a beaucoup de relâchement et de plaisir parce que, par exemple, là, cette année, donc j'arrive dans Saint-Gervais, qui est une arène à ciel ouvert. Il y a énormément de monde. Quasiment 3000 personnes maintenant, ils annoncent. Et du coup, c'est vrai que quand t'entres dans Saint-Gervais, ça fait du bruit. Puis vu que t'entres pas premier, il y a déjà le bruit des autres avant. Donc c'est pendant 10-15 minutes, c'est toi. Et j'entre dedans. Donc j'étais avec Théo Leboudec, un jeune coureur là, du Team Altra avec moi. Donc lui, avait 22 ans, hein, première UTMB, costaud le mec. Et je lui dis, Théo, ralentis. Et savoure ce public, tu vois, regarde-les, imprègne-toi de leurs encouragements, etc. Parce que bah, dans 2 heures, c'est la nuit et on sera tout seul dans la forêt. Donc là, savoure le truc, ralentis, tiens, regarde, on va marcher un peu avant le ravitaillement, on va faire les cons, on va faire coucou avec la foule. Donc on perd 30 secondes, mais du coup, tu profites vraiment du truc. Et c'est vrai que quand t'es tout seul dans la nuit, 2 heures plus tard, à monter au col du Bonhomme et qu'il commence à y avoir un peu de vent et que tu mets la veste parce qu'il fait un peu froid... Bah, ça, t'as été un peu, tu vois, t'as profité vraiment de ces encouragements et tu peux t'en souvenir tout de suite en te disant, allez, je vais revoir un peu de foule au Chapieux, allez, je vais revoir un peu de foule à Courmayeur, et tu te boostes un peu comme ça.
Donc tu te mets aussi des mini échéances en te disant, tu vois, c'est des trucs que j'ai loupés par exemple par le passé, de me dire, bon, allez, je monte cette côte et je vois après, je monte la suivante, etc., etc. Toi, c'est plutôt ouais. Là, je suis ici. Dans quelques temps, je vais voir un paquet de monde. Ça va me rebooster. Après, il y aura un autre paquet de monde. Toi, tu vas de paquet de foule en paquet de foule, en fait. Tu te dis pas arriver dans 170 km.
Ah non.
Tu fais comment?
Après, j'aime bien. Tu sais, au départ, tu pars, puis c'est chiant parce qu'il y a toujours tout un tas de monde qui part trop vite. Je l'ai pas fait cette année parce qu'après on va dire gna gna gna, il a le boulard et tout. Mais au départ, t'as une foule de gens qui ont le dossard 200, le dossard 300 et qui sont. On a un sas prioritaire pour les 300 premiers dossards. Enfin, t'as un sas pour de 1 à 80, en comptant les dames, hein, bien sûr, elles sont mélangées. Et t'as un sas de 80 ou de 100 à 300. Et moi, je suis dans le deuxième sas. Et dans ce sas-là, en fait, les gens n'ont aucun respect pour les autres. C'est-à-dire que bon, j'ai quand même fini 5 fois l'UTMB. À chaque fois, je l'ai fini dans le top 30. Pourquoi il y a des mecs qui débutent sur la distance ou qui n'ont jamais fait leur preuve, qui viennent se faufiler et se foutre vraiment à l'avant, là? En plus, il y a quelques numéros, je m'en suis souvenu. J'ai regardé à l'arrivée, ils avaient abandonné. Donc, c'était bien la peine de venir gêner les vrais coureurs, on va dire. Et donc, quand tu pars comme ça dans le groupe, tu sais, au bout de 10 minutes, j'aime bien dire « Ah, on a fait 3 bornes. Et ben, il en reste 168. » Tu vois ça, tout le monde descend d'un cran comme ça. Et les mecs se disent « Ah putain, oui, on est sur un ultra. Ah merde. » Et ben oui, les gars, fallait peut-être pas partir à 16 km/h sur la route. Mais par contre, effectivement, c'est très démotivant, donc je me dis jamais... Ah, attends, on a passé les Ouches. Ah ouais, il reste 152 km. Ok. Ah, on a passé Saint-Gervais. Ah, il reste 150 km. Ok. Non, ça, je me le dis jamais. Et d'ailleurs, ce qui est horrible à la Trans-Gran Canaria, c'est que ces salopards, alors ils le font de moins en moins, mais ils te mettent comme en vélo, les kilomètres au bord de la route. Donc, t'as le panneau, reste 120. Reste 110. Ah bah, merci.
Ouais, ça t'arrache.
Ah non, c'est horrible.
Alors, si tu ne te dis pas il reste, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis quoi alors?
Eh ben j'ai mon temps de passage du point chronométrique suivant en fait. Et je vais du point chronométrique.
Chrono. D'accord. Ouais. Alors, on va s'arrêter doucement.
Et puisque tu viens du vélo et surtout du VTT, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Quand est-ce que tu viens à l'ultra vélo, au bikepacking et au gravel? Pour te le dire un petit peu plus crûment, quand est-ce que tu viens nous faire chier en ultra vélo?
Non, bizarrement, ça m'intéresse pas trop.
Parce que t'as pas le niveau.
Peut-être. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en en vélo, en fait, vous avez largement dépassé le délire du 24 heures. Vous partez sur des trucs à la semaine, ça m'intéresse un peu moins.
Qu'est-ce qui t'intéresse moins?
Après, je sais pas, tu vois, ça, l'envie peut changer hein, d'ici quelques années. Peut-être un paquet d'années, parce que là, je suis rentré dans un délire avec l'UTMB, et le jour où j'aurais plus envie d'y aller, j'aurais sans doute envie d'aller à l'Échappée Belle ou sur d'autres très beaux ultras. Donc je pense qu'on en a encore pour quelques années quand même. Mais ouais, c'est peut-être un peu trop extrême. Après, il y a... Ouais, j'ai du... Tu vois, je fais du vélo, hein, l'entraînement bien sûr, mais j'ai quand même de plus en plus de mal avec les automobilistes. Et je sais que vous devez pas mal composer avec ça.
Pas en bikepacking off-road, tu vois.
Ah oui, le gravel.
Par exemple, sur la Gran Guanche, au départ de Lanzarote, et on se tape 5 kills jusqu'à El Hierro, il n'y a pas beaucoup de routes. Il y en a un petit peu à Gran Canaria, il y en a un petit peu à Fuerteventura, mais tout Tenerife, il y a un petit peu de route sur le volcan, mais sinon, c'est tout par la piste. C'est un truc de dingue.
D'accord.
Et puis... Oui, sur la route, tu vois, évidemment, des races cross France, des trucs comme ça, bah, par défaut, c'est sur la route. Mais quand on commence à taper du off-road, ce qui est finalement le cousin à vélo de l'ultra trail, les voitures, on les voit pas tant que ça, elles sont pas si gênantes. Et même au contraire, on est content de taper un petit peu de route parce que qu'est-ce que c'est reposant, la route.
C'est sûr. Tu sais, c'est exactement comme sur la course à pied. Hein. Tu dis, ouais, je fais un truc technique, machin, bidule et tout. Je peux te dire qu'à l'échappée belle, quand t'as une toute petite portion de route, putain, tu la savoures. Hein.
T'es content. Pour terminer, c'est quoi ta quête sur l'UTMB? Parce que là, tu me dis, je rentre dans un délire, donc ça veut dire que tu cherches quelque chose. C'est quoi ta quête sur l'UTMB?
Ouais, c'est vrai.
Ton objectif, c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu cherches à l'UTMB? Pourquoi tu t'infliges ça?
Bah, la gloire, l'argent, les putes, la coke, tout quoi.
Bah, mais les putes et la coke, tu l'as déjà.
Je pourrais, ouais. Non, je déconne. Non, en fait, je, tu sais, j'ai envie de. À un moment donné, tu passes la ligne d'arrivée comme ça. Le mec t'interview, Ludo Collet, sans doute. Et tu lui dis, écoute, ça s'est bien passé. Là, je pourrais pas faire mieux. Donc, je vais m'arrêter là. Mais en fait, chaque année, tu vois d'autres trucs à faire. Et quand je serai arrivé au bout de. Tu vois, là, j'ai encore 3 axes de développement cet hiver. On va voir ce que ça donne à l'UTMB. Est-ce que ça va pas nous faire ressortir un axe pour l'année d'après? Après, il y aura un autre truc à explorer, c'est le fait de devenir sportif professionnel. Donc, en arrêtant mon activité de speaker, en arrêtant mon bénévolat auprès de la course que j'organise, le Trail Niveau Les Revards, je pense que ça, je le ferai quand j'aurai 10 ans de bénévolat derrière moi. Ce sera un chiffre rond, j'aime bien, c'est symbolique. Voilà, peut-être être professionnel pour l'année de ses 40 ans, tu vois. C'est-à-dire, tu te lèves le matin et en fait, les tâches que tu as sur ta feuille, c'est faire des mobilités articulaires, faire son entraînement, faire des bottes de pressothérapie, faire une sieste, refaire un entraînement le soir, voir son masseur à 19h, etc. Tu vois, ça, c'est ta to-do list après quand t'es un sportif professionnel. Ça m'intéresserait de le vivre et de l'expérimenter. Je pense que pour que l'expérimentation soit... bonne, il faudrait qu'elle dure 3 ans. Je sais pas, peut-être de 39 à 42 ans. On voit que sur Ultra Trail, c'est pas très gênant d'être plus ou moins âgé. Je rappelle que la personne qui arrive juste derrière moi, elle a 55 ans, c'est René Rovera. Ludovic Pommeret, il a 48 ans, il fait le top 5. Donc je pense que l'âge n'est pas un problème sur ce type d'effort. Et tu vois, tout ça nous amène sur sur un projet de plusieurs années quand même. Donc, en fait, ce qui va me faire arrêter, ça va être sans doute la décroissance liée à la vieillesse plus tard. On voit quand même avec Antoine Guillon que passer les 52, 53 ans, c'est un peu plus dur, même si tu vois, il y a le contre-exemple de René Rovera.
Oui, mais René Rovera, il vient pas de nulle part et lui, il est quand même extrêmement connu. En oui. plus, pour être un très grand cycliste et pour être quand même une brute épaisse.
Bien sûr, bien sûr.
Pas non plus.
C'est vrai, et c'est vrai qu'Antoine a aussi épousé un style de vie particulier en partant en Grèce, retaper une oliveraie. Voilà, il y a plus facile comme occupation dans la journée en vivant pendant je sais plus combien de mois en tente dans son oliveraie. Donc c'est vrai qu'il a peut-être pas mis toutes les armes de son côté pour durer, mais bon, on voit quand même qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc ouais, c'est une question difficile.
D'arriver au bout de ta quête, tout simplement, parce que là,
et puis,
ce que tu cherches, c'est à tirer tous les curseurs et à pousser tous les curseurs pour voir jusqu'où tu peux aller.
Ouais,
tout simplement.
Exactement. Et il y a une manière de passer professionnel, par exemple. Aujourd'hui, j'interview des team managers pour mon blog, là. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est que de plus en plus, ils ont des demandes d'athlètes assez jeunes, et du coup peut-être naïfs par rapport à la vie, et qui en fait leur demandent, bah voilà, moi je veux être pro, je veux de l'argent, vas-y, donne-le-moi, et puis je vais faire du trail. Bah oui, mais attends, t'as rien vécu, tes paramètres physiologiques, c'est pas non plus ceux de Kylian Jornet, bah non, en fait, je vais pas te donner d'argent pour que tu glandes toute la journée. Par contre, quelqu'un qui a déjà expérimenté tout un tas de blessures, qui a déjà expérimenté plusieurs manières de s'entraîner, qui a déjà expérimenté plusieurs manières de se nourrir, bah lui, le jour où tu vas lui dégager du temps libre, en fait, il va avoir la bonne recette à appliquer parce que les erreurs, il les aura déjà faites. Alors que si tu payes le mec à 22 ans pour tout arrêter et faire plein de sport, bah en fait, ton petit poulain à 22 ans, alors il va sans doute réussir plein de choses parce qu'il est quand même très fort, mais il va expérimenter la blessure, il va expérimenter plusieurs types de blessures, et il va expérimenter ça avec ton argent. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans des sports beaucoup plus professionnels comme le vélo, où bah là, même si le mec, tu vois, je sais pas, John Ayuso, il a 19 ans, il arrive à UAD avec Tadej Pogacar, il fait deuxième de la Vuelta, voilà, c'est exceptionnel, machin, truc, bidule. Bah oui, mais autour de lui, il y a tout un staff, autour de lui, il y a 20 salariés qui prennent soin de sa santé au quotidien, donc effectivement, c'est un peu plus facile dans ce cas-là.
Il n'y a pas de staff type UAE dans l'ultra-trail,
oh non,
type Jumbo.
Personne. Personne.
Non, mais je rigole, je sais bien.
Non, mais certains le croient, tu fais bien de le dire.
Ouais, mais alors on s'imagine même pas à quoi ressemble l'encadrement de UAE et le niveau de compétence qu'il y a autour de UAE ou de Jumbo.
Ben, j'ai c'est pu incroyable. Voir une fraction de Jumbo à Tignes cet été, mais je te dis une fraction, hein, parce que c'était quelques personnes en stage, mais j'ai déjà vu comment ils sont venus au stage, quel matériel ils ont amené. En fait, les mecs sont en stage, mais il y a des salariés autour d'eux pour prendre soin d'eux quand même. Là, tu vois, tu réfléchis, tu te dis, ouais, en fait, c'est plus facile de faire du sport comme ça.
Probablement. Mon petit Hugo, si je puis dire, je
oui,
pense qu'il
vrai.
Est temps de
je
te remercier bien vivement parce que ça fait 1h26, 1h26 fort enrichissante.
Ah oui,
est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Et nous nous arrêterons là-dessus.
J'ai bien aimé tes questions, Richard, qui sortaient un peu de l'ordinaire. Donc voilà, je pense que je regarderai avec beaucoup d'attention tes autres invités. Bah pas moi, parce que je m'en fous, mais tes autres invités pour voir un peu comment tu les cuisines aussi.
Alors c'est très gentil déjà. Merci pour le compliment. Mais comme je t'ai dit, j'ai un petit peu de route.
Oui,
j'en ai
oui.
fait 205 uniquement dans le vélo avec quelques trailers. Le Brognard, évidemment, même si maintenant il fait plus de vélo que de course à pied. Un des tout derniers que j'ai fait, c'était Sébastien Réchon.
Ah oui.
Joe Grant également, il y a 2 ans. Donc, et puis bah après à vélo, vraiment les meilleurs en ultra à vélo du voyage, des anonymes, des champions, des bons, des moins bons. Donc ça fait un petit peu de et je suis content parce que finalement j'étais assez nerveux et ça s'est plutôt mal passé, plutôt pas trop mal passé. Donc je suis assez satisfait. Et tout à l'heure tu parlais de Ludo Pommeret, je l'interview dans 2 jours.
Ah d'accord, trop bien Ludo, on l'entend pas souvent en plus donc
vendredi Stéphane pour l'épisode inaugural. Donc là, c'est un petit peu le compte à rebours. Donc vous qui écoutez ça aujourd'hui, vous saurez pourquoi je commence par Stéphane. Et il me vient d'ailleurs que j'ai oublié de te poser une question. Et c'est honteux de ma part parce que c'est quand même le titre du podcast. Est-ce que t'es plutôt, attends, je reprends ma question parce que maintenant j'écris mes trucs. Tiens, je prépare, c'est ça l'expérience, c'est que maintenant je prépare beaucoup plus mes trucs.
Ouais, vas-y.
Tac. Tu vois, elle est tellement bien préparée que je sais plus où je l'ai foutu. C'est bien, hein. Mince, alors. Alors, est-ce que t'es plutôt un mauvais élève du trail ou si tu préfères sale gosse, rebelle, anticonformiste? Je te laisse choisir un terme qui te convient ou en trouver un autre.
Non, je suis plutôt très intéressé, très curieux. J'ai d'ailleurs essayé beaucoup de choses.
Ça n'a rien à voir. Justement, tu es en train de me décrire un comportement plutôt rebelle à aller chercher des solutions ailleurs.
Ah ouais. Ah, je voyais pas ça comme ça. Bah oui, alors du coup, ouais, complètement rebelle
puisqu'effectivement... Est-ce que ça t'aide justement d'aller chercher, d'aller gratter ailleurs et de pas de sortir, désolé pour le jeu de mots foireux, sortir des sentiers battus?
Bah oui, parce que t'apprends toujours quelque chose, tu vois. Il y a certaines manières de faire. Je sais que c'est une connerie parce que je l'ai fait longtemps. Et du coup, j'ai peut-être perdu du temps, mais au moins j'ai cette certitude. Et en fait, vu que c'est moi-même qui me l'a su apporter, je peux te dire que c'est gravé au fer rouge, quoi.
Bon, il faut que j'affine cette question. C'est pas assez clair.
D'accord.
Voilà.
Ah, j'aurais servi de cobaye.
Non, un petit peu, mais en fait, l'épisode avec Stéphane va être inaugural pour expliquer le concept de mauvais élève. Parce que je me reconnais complètement dans ce concept, et Stéphane, c'est vraiment le roi des mauvais élèves.
Et si je fais ça aujourd'hui, c'est
grâce à lui. Je peux vous le dire maintenant, ça, peut-être que ça s'entendra pas dans l'épisode, je n'en sais rien, mais en tout cas, on se connaît bien, très bien.
Ouais.
Donc, je lui dois beaucoup à ce niveau-là. Hugo, merci beaucoup.
Et ben,
je coupe, reste en ligne.
Avec
un
plaisir.
Instant.
Ouais.